Ok, Coulanger. 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 Ça me fait penser, je sais pas, à l'espéranto par exemple.
Ok, oui, un peu comme le Klingon dans Star Trek par exemple.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Zoom Zoom Zen, ou plutôt cet après-midi. Arden Adabon Gualden Eredir, Nedrui Zoom Zoom Zen Nagadek. Comment ? Vous ne parlez pas le Sindarin, la plus noble des langues elfiques ? Décidément, vous avez encore bien du chemin à parcourir sur le sentier tortueux du gai savoir, Gelam East, comme dirait Legolas. Oui, aujourd'hui, on zoome sur un métier étonnant, Conlanger. Ces linguistes chargés d'inventer de toutes pièces de nouvelles langues pour le cinéma, la fiction, du Klingon dans Star Trek, au Dothraki dans Game of Thrones, en passant par le Navi dans Avatar, sans oublier la plus fascinante, la plus mystérieuse de ces langues imaginaires, le Marianouk. Un sabir obscur qui, contrairement aux langues forgées pour le cinéma, n'est même pas parlé par une poignée de fans, mais par une seule et unique personne, Manon Mariani. Ce qui tombe bien puisqu'elle est la seule à la comprendre. Cette langue est pourtant assez simple, voire dépouillée, puisqu'elle ne contient par exemple, en tout et pour tout, qu'un seul adjectif qui sert à décrire aussi bien la 5e symphonie de Beethoven que le dernier EP de Laurie, l'œuvre de Victor Hugo et celle de Lena Mafouf. Ce mot, c'est iconique. On note aussi des expressions comme « b de bail », »,« être en hésitation » ou encore « avoir un sourire enjoliveur ». D'où vient ce langage étrange, Manon l'a-t-elle forgé toute seule dans les barachottes du 12e arrondissement ? Ou bien est-ce là un héritage familial que lui aurait transmis son oncle, le député RN Thierry Mariani ?
Ça n'est pas mon oncle, arrêtez avec ça.
Peut-être, mais on l'a tellement répété dans cette émission que pour nos auditeurs, ça sera toujours votre oncle. Zoom Zoom Zen, Daragouyou.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Et bonjour Frédéric Landragin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi, Frédéric. Vous êtes directeur de recherche en linguistique au CNRS, passionné de science-fiction. Vous avez notamment écrit « Comment parler à un alien ?» question qu'on ne se pose pas tous les jours, mais qu'il faut se poser, car ça peut arriver d'un moment à l'autre. « Langage et linguistique dans la science-fiction », c'est la suite du titre aux éditions Le Bélial, un livre dans lequel vous consacrez un chapitre entier à ces langues inventées. Et vous avez aussi écrit un article pour le CNRS sur ces fameux conlangers qui forgent ces langues. Vous allez tout nous expliquer, juste le temps de vous présenter deux surdoués des langues. Vous n'allez pas vouloir repartir sans eux, vous allez vouloir les rapporter avec vous au CNRS pour les étudier. À commencer par celui qu'on appelle tout simplement et sans aucune ironie, le bilingue de la bande, tant sa maîtrise de l'anglais fascine.
Extremely lie, large, parce qu'il y a un Y.
Quant à lui, mais parce qu'il y a un Y qui justifie le fait qu'on dit n'importe quoi.
Il dit Y.
Oui, évidemment. Quant à lui, chaque après-midi, vous partez à la rencontre des passants pour les faire réagir à notre mot du jour. Alors, ce mot conlanger, ils en avaient déjà entendu parler.
C'est fou que Cyril Lacarrière rit autant sur ce genre de blague.
Ah, bah oui.
Bon, bref.
C'est l'hôpital qui sous la charité.
Ils n'avaient pas entendu parler de ce mot-là. Personne n'a su me dire sur le coup. On est passé par du bon vieux Conlanger jusqu'à Conlanger. Vous savez, ces gens qui insistent sur le fait de bien prononcer l'accent. Un peu comme vous, Mathieu.
Ah oui ?
Oui, vous insistez sur... Mais bien sûr, vous avez eu des parents qui ont été traducteurs à l'ONU. C'est quand même la moindre des choses d'être polyglotte. Et c'est bien plus facile pour se moquer des autres. Vous brûlerez un
enfant. Les attaques vous à Dominem. Est-ce que c'est mon genre ? À vos côtés, Frédéric Landragin, voici donc la seule Conlanger bénévole. Elle n'attend pas que Universal Pictures la sollicite pour inventer les dialectes, elle les invente toute seule, gratuitement, dans son coin, à l'échelle du 12e arrondissement de Paris, où elle se targue d'avoir, je cite, « lancé des expressions ». Expressions
c'est
que,
vrai.
Même en traînant dans le quartier Bastille, nous n'avons jamais entendu ailleurs que dans sa bouche, soyons clairs. Manon, chaque après-midi, vers 5h moins le quart, les Français frissonnent d'excitation. Surtout Bernard, votre fan, car vous envoyez désormais à nos auditeurs un mail avec une pièce jointe. C'est tremblant, fébrile et disons-le, carrément moite, que Bernard l'ouvrira pour découvrir qu'hélas, une fois de plus, il ne s'agit pas d'un nude, mais d'une chronique, tout simplement. Ça s'appelle la pièce jointe de Manon Marie.
Oui, aujourd'hui en pièce jointe, pas une photo de ma belle Ray, de cheveux, évidemment, mais un groupe de musique. Ça a beaucoup fait rire Cyril tout à l'heure. Vous avez
on aurait pu mettre une cymbale.
16h08 sur France.
Elle avait.
On arrête.
Le pire, c'est qu'elle était préméditée.
Oui. Je peux teaser ma chronique,
mais. Ah oui, mais là, laissez-moi.
Vous avez l'impression
déjà
que ce groupe chante en islandais, enfin le chanteur de ce groupe, mais en fait, c'est pas toujours le cas. Mais c'est un teasing, Mathieu. Oh là là, il a toujours pas compris.
Il est resté à l'arrêt.
Mais je me suis arrêté là. Oui. Tout s'est arrêté, mon cerveau s'est arrêté.
Elle est très droite aujourd'hui.
Très bien. Vers 16h30, le Zoom Zoom Test nous entraînera à la découverte des langues les plus étranges du monde. Certaines plus plus incongru encore que le Marianouk. Juste avant 17h, un humoriste dont la titularisation n'aura finalement pas été si incongrue, vu qu'il est là chaque semaine, Guigui Pop nous rejoindra. Après 17h, restez, on zoomera sur la mobilisation du 10 septembre. La France va-t-elle vraiment être bloquée? Qui veut la bloquer? Est-ce le retour des gilets jaunes, comme dirait Cyril? Si Fillon était aux commandes, on n'en serait pas là. Mais d'abord, Frédéric Landrajin, zoomons ensemble sur ces langues imaginaires, inventées donc spécialement pour la fiction. Déjà, est-ce que tout le monde peut inventer sa propre langue ou bien il faut avoir de solides bases en linguistique pour que ça fonctionne, pour qu'on y croit?
Disons qu'un linguiste fera le travail mieux que nous, que moi, mais tout le monde peut le faire, oui.
Tout le monde peut le faire?
Ah oui, oui.
Mais par exemple, quand je vous ai dit, vous m'avez écouté tout à l'heure, là, quand j'ai parlé en sindarine, est-ce que c'était bien du sindarine?
Alors, moi, je ne parle pas le sindarine.
Ah, c'est une langue c'est une langue elfique assez pointue, effectivement.
Ah bah oui, c'est Tolkien. Hein.
Il est, pour les linguistes, un objet d'étude fascinant. Longtemps, les spécialistes ont cru qu'il parlait le lacariérus, un vieux dialecte précolombien de la région de Ponto Combo. Mais non! En fait, il ne parlait pas une autre langue, il essayait tout simplement de parler anglais, mais lentement, parce que sinon c'est trop dur pour lui.
Screen, Actors, oui. Guide, American, oui. Fédération,
oui, Cyril.
Off, Télévision,
oui. Bonjour. Radio, oui, bonjour Cyril Lacarrière.
Venant de quelqu'un qui a inventé une langue avec des Z partout, Presley, Disney, les cheveux.
Gorillaz.
Oui, il y a quand même un Z.
Là, j'ai raison.
Mais vous aviez pété un câble ce jour-là, Cyril.
Mais non, c'était le jour où on avait fait l'émission sur le syndicat d'acteurs américains.
Sans compter, c'est vrai que c'est bizarre.
Vous aviez fait un petit AVC juste avant, on peut le dire.
Micro.
Cyril, racontez-nous, vous qui êtes remonté aux origines du phénomène, les conlanger. D'où ça sort?
Imaginez, vous regardez Game of Thrones, ses dragons, ses égorgements, ses batailles, ses scènes de sexe torride, quand vous entendez Daenerys prononcer ces mots mystérieux.
Valar Morghulis.
Alors ça pourrait être du charabia, mais pas du tout, c'est du haut-valyrien. Et le haut-valyrien, c'est une langue inventée de toutes pièces. Au passage, attention à ne pas confondre haut et bas-valyrien. Le haut, c'est la langue de l'élite, la langue restée pure, élégante, et le bas, disons que c'est la langue du peuple, celle qui a évolué et s'est diversifiée, Manon dirait la langue des ploucs. Bref, inventer une langue, ça porte un nom, le conlanging, un terme qui est en fait une contraction de deux mots, constructed et language.
Et il y a un exemple très célèbre.
Oui, l'espéranto, créé en 1887 par Ludwig Zamenhof. Mais plus qu'une simple langue, Zamenhof rêve surtout d'une langue universelle qui unirait tous les peuples, une sorte de chou blanc malgré tout. Le véritable élan du conlanging, c'est Tolkien qui va le donner, l'auteur du Seigneur des Anneaux. Tolkien était un amoureux des langues nordiques et celtiques et il s'en est inspiré pour créer le Quenya et le Sindarin dont on a parlé, que parlent les elfes. Détail amusant, Tolkien a raconté qu'il n'avait pas inventé des langues pour nourrir son histoire, mais c'est parce qu'il avait inventé des langues qu'il a créé une histoire, manière de les faire vivre. Le conlanging va faire florès ensuite, évidemment, bien sûr à Hollywood. On entendra des langues inventées dans Star Trek et Avatar notamment. Alors d'où ça sort les conlanger? Eh bien de là, et ce n'est que le début de notre histoire.
Merci beaucoup Cyril. Frédéric Landrajin, l'inventeur de l'espéranto, ce Ludwig Zamenhof, c'est le premier conlanger ou c'est un peu différent?
C'est un peu différent parce que on réserve le conlanging à la fiction, alors que Esperanto ou Volapük était à la base...
Volapük.
Le Volapük, ouais.
C'est-à-dire
le Volapük, bah, c'est quelques années auparavant, et c'est un certain Schleyer qui l'a inventé, dans le même but, c'est-à-dire essayer de trouver une langue à vocation de communication entre les peuples. Et donc, le but, c'était de créer une langue qui soit pas trop compliquée à apprendre pour que, par exemple, tous les peuples qui vivent autour de la Méditerranée puissent faire leurs échanges commerciaux en utilisant cette langue-là.
C'est étonnant que ça n'ait jamais marché.
Alors,
c'était pratique.
On peut dire qu'effectivement, ça n'a pas trop marché parce que j'imagine qu'aucun parmi vous ne parle ni Volapük ni l'espéranto.
Assez peu.
Voilà, moi non plus. Par contre, le globish, c'est un peu ça, finalement.
Ah, le globish, ce qui est cet anglais globalisé que tout le monde parle plus ou moins, c'est ni de l'anglais.
Donc, ça a pris une autre voie que celle qui avait été imaginée, mais au final, le résultat est à peu près le même.
Mais c'est intéressant parce que est-ce qu'un conlanger, ça travaille que sur des œuvres de science-fiction ou ça peut être ça, justement, le globish ou l'espéranto?
Non, on réserve le terme vraiment pour la fiction. Alors, pas que la science-fiction. Oui. Hein. Ça peut être la fantasy, le fantastique. Enfin, dès qu'il y a le besoin de mettre en scène, hein, en général, c'est à l'écran, des personnages qui parlent une langue qui caractérise leur peuple, leur ethnie.
Mais Manon.
Cyril nous parlait de Tolkien. Il inventait d'abord des langues avant de créer un univers autour, ce qui est quand même assez dingue. Comment il s'y prenait? Est-ce qu'il s'est inspiré de langues qui existaient déjà?
Alors, on a parlé donc des langues du Nord. Enfin, effectivement, il y avait aussi le vieil anglais. C'était un grand fan du vieil anglais et donc il aimait bien cette sonorité un peu désuète. Enfin, les termes aussi. Hein. Donc, lui, il est parti de ça. Alors, il commence par imaginer des mots. Ce que nous, on pourrait faire, par exemple, pour des noms propres, ou ce qu'un romancier fait quand il invente les noms propres de ses personnages. Il invente des mots, il ne va pas prendre Durand, Dupont, et voilà, c'est un peu plus évolué que ça. Donc, c'est la première étape du conlanging, et c'est pour ça que je répondais que tout le monde peut le faire, parce que pour les noms propres, en fait, on le fait tous.
On le fait.
Enfin, les créateurs le font tous.
Mais là, on est dans un degré qui est très différent, parce qu'on est au-delà des mots. Parce que pour préparer l'émission, j'ai essayé d'avoir un Google Translate vers le Sindarin pour faire ma petite intro. Et il existe un dictionnaire, c'est-à-dire que quasiment tous les mots existent en Sindarin. Et il y a une grammaire aussi. Pourquoi rentrer dans ce niveau de complexité? En quoi c'est nécessaire?
Pour faire vrai. Parce que quand on crée une fiction, imaginez dans Game of Thrones, puisqu'on en a parlé, tous les acteurs ont des costumes qui sont magnifiques, qui ont demandé des milliers d'heures de préparation. Les décors sont exceptionnels aussi. S'ils parlaient l'anglais américain du début du 21e siècle, ça ferait un peu cheap. Alors qu'avec une langue qui est élaborée...
C'est aussi important que les costumes, finalement.
Exactement, c'est le même effort.
Mathieu Noël sur France Inter.
Un métier d'avenir zoom cet après-midi sur les conlangers, ces personnes qui inventent des langues pour le cinéma. Certains, évidemment, se donnent du mal, comme Tolkien, qui a créé pas moins de 6 langues avec leurs alphabets. D'autres se sont, disons, moins foulés.
Ça, c'est de la soupe aux choux. Faites avec mes choux à moi.
Pensez pour le conlanger de la soupe aux choux. On est toujours avec le directeur de recherche en linguistique au CNRS, Frédéric Landragin. Frédéric, depuis le succès du Seigneur des Anneaux et de Game of Thrones, on en parlait, qui utilise donc des langues inventées, est-ce que le métier de conlanger est en plein boom? Il y en a combien dans le monde, des conlangers? Est-ce qu'ils sont très recherchés?
Alors, des professionnels qui vraiment vivent de ce métier-là, à ma connaissance, il n'y en a pas en France. C'est juste des petits contrats qui durent un certain nombre de mois, puis après, il faut retrouver un autre film, quoi. Aux États-Unis, il y a une association autour de David G. Peterson, qui est la personne, le conlanger en fait. Hein, c'est lui qui a donc créé le Dothraki, le Valyrien,
tous les langages de Game of Thrones. C'est une seule et même personne qui a fait ça.
Oui, il a gagné un concours, entre guillemets. Il y a eu une sélection et donc, c'est lui qui avait la meilleure reproposition.
Si je résume, il n'y a qu'un seul conlanger dans le monde.
Alors maintenant, il a une équipe avec lui. Donc, je pense qu'ils sont une dizaine aux États-Unis. En France, il y a une centaine de conlangers, on va dire, amateurs.
Mais ils travaillent sur quoi en France, nos conlangers à nous?
Ils s'amusent. Hein.
Mais non, mais dans quelle fiction française, dans quel film on peut entendre
Alors,
une langue?
Alors, ça peut être des films, ça peut être des jeux vidéo, ça peut être toute œuvre de fiction, même éventuellement une BD. Enfin, ça peut faire l'objet de la création d'une langue fictive.
Ce sont des équipes de linguistes. Comment on s'y prend pour inventer une langue? On cherche une langue disparue, on part d'un mot, d'une base, et comment surtout on fait pour être cohérent de A à Z?
En général, on parle de sonorité, parce que c'est ça qui percute le plus vite les gens qui écoutent ou les spectateurs au cinéma. Tolkien, par exemple, avait un intérêt énorme pour les sonorités des langues qu'il inventait. Et par exemple, il y avait des sons qu'il aime bien, des sons qu'il aime pas. Tous ceux qu'il aime pas, il les a mis dans le parler noir, donc voilà, la langue du méchant, etc. Ouais. Et ceux qu'il aimait dans les langues elfiques. Donc, si je vous dis, par exemple, Pekbetika ou Awamimu, vous allez avoir d'un côté un mot qui ressemble à quelque chose qui est assez agressif, en tout cas qui ne dénote pas le calme absolu, alors que l'autre, oui.
Awamimu, oui, c'est doux.
C'est doux,
c'est
voilà.
Hawaïen, ça coule, on sent bien.
Voilà, exactement. Donc, en fonction de ce que l'on veut rendre, par exemple, du caractère d'un peuple, on va prendre des consonnes vraiment explosives, un peu dures, ou alors des consonnes liquides ou autres.
Mais il faut forcément s'inspirer d'une langue qui existe quand même pour que ce soit un peu plus crédible, ou on peut totalement...
Partir de zéro.
Ouais, partir de zéro.
Ça serait un idéal de partir de zéro, sauf qu'on n'en est pas capable, parce qu'on a appris une langue, une langue ou deux même, si on est bilingue, et donc involontairement, on se base un petit peu sur ces langues-là. Par exemple,
pour ça, il faudrait réinventer un alphabet, en fait, limite.
Bah, tout, en fait. Ouais. Des sons, faudrait essayer d'imaginer une façon de prononcer qui n'existe ni en anglais, ni en français, ni en chinois. Voilà, sauf que des langues dans le monde, il y en a plus de 5000 qui sont parlées à l'heure actuelle, ou 6000. C'est très, 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 très vaste. On a une base absolument énorme.
Alors, vous dites, il faut inventer un alphabet, il faut inventer des mots, il faut inventer une grammaire. Parfois, ça va même plus loin. Certaines langues inventées comportent une facette diachronique. Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que la langue évolue. C'est le cas du français. Oui. Donc, nous, le français du XIe siècle n'a pas grand-chose à voir avec le français actuel. Et puis, il y a eu donc l'ancien français, le moyen français, le français classique, etc. Dans les œuvres de Tolkien, il y a le Kenya classique et le Kenya tardif. Et donc, lui était un diachronicien. Il l'a fait.
Il est le seul, non ?
Il est un des rares, oui.
Parce que là, ça pousse le curseur un peu loin. Est-ce qu'il y a des langues inventées qui ne sont pas faites de mots ? Je vous pose la question parce que je repense au film Contact de Robert Zemeckis, où là, les extraterrestres, ils communiquent à travers un langage informatique. Ça aussi, c'est du conlanging ou c'est autre chose ?
Non, là, c'est plus compliqué parce qu'on est dans des mathématiques. Dans Contact, ce sont la liste des nombres premiers qui est communiqué, donc là, c'est vraiment des maths. C'est, si vous voulez, un langage à vocation universelle. Donc c'est, ça nous
les mathématiques,
un petit peu.
C'est un langage à vocation universelle, quelque
part. Et comme la musique dans...
Rencontre du troisième type.
Et dans Premier Contact de Denis Villeneuve, on voit des extraterrestres qui parlent avec des espèces de signes. Voilà. C'est du conlanging ?
Là, oui. Et là, effectivement, ça ressemble à rien de ce que l'on connaît. Mais alors, c'est pas une vraie langue... Disons qu'il y a une langue, l'heptapode A, qui est parlée, mais qui est assez vite ignorée dans le film parce qu'elle est trop complexe à segmenter et à décrypter, en fait. Et très vite, il passe à l'écriture. Et donc, c'est ça qui est tout l'intérêt, en fait, hein, de Premier Contact. C'est ces fameux cercles avec des graphismes un peu partout. Donc ça, c'est du conlanging.
Plus globalement, ces langues construites, mais totalement inventées, ça participe à ce que vous appelez le sense of wonder, le sens de l'émerveillement. De quoi s'agit-il ?
C'est une caractéristique de la science-fiction, en particulier de la fantasy aussi, c'est qu'un lecteur, quand il va lire un roman, en quelques phrases, grâce à un phénomène de dépaysement, il va être embarqué.
Il est projeté ailleurs.
Voilà, exactement. Et donc... Quand on a un peuple très exotique qui intervient, si en plus il parle une langue qui est incroyable, ça participe à ça.
On parlait de rencontre du troisième type. Autour de cette table, Manon aussi a vécu une rencontre du troisième type. Une rencontre avec une vie extraterrestre. C'était le 26 août 2022, quand elle a rencontré pour la première fois un être venu d'au-delà du périphérique. Un être venu d'Alençon, dans l'Orne. Quentin, lui, depuis avec
mon
Manon, vous avec avez réussi.
Mon propre langage.
Avec votre propre langage.
La propre odeur.
Très particulier.
Est-ce que je sentais l'agriculture
à l'époque,
les
vous,
foins, les
vous sentiez les foins à l'époque.
Oh là là.
Et puis, mais vous avez réussi, Quentin, à communiquer avec Manon. Et c'est pas étonnant, car la communication, c'est votre point fort. Vous êtes notre trace du micro-trottoir, même quand les passants ne connaissent pas les mots que vous leur soumettez.
Et Paris, c'est un lieu formidable pour qui aime entendre des langues, ville-monde, vieux, jeune, actif, retraité, accent. Si vous tendez l'oreille, c'est un voyage fascinant. Justement, je tombe sur ce monsieur, grand, bien bâti, t-shirt blanc, jeans, Stan Smith au pied, pardon. Il chantonne tout seul dans la rue.
J'étais en train de chanter cet is gone. En plus, je ne connais même pas les paroles. And we'll try to fix you.
Ah, c'est Coldplay.
Coldplay.
Oui, je répète mes chansons. Colanger, constructed language en anglais. Quelqu'un qui invente une langue de toutes pièces.
Il me dit
que j'étais en train de faire en chantant.
Il me dit qu'il pense à l'espéranto dont on a déjà discuté dans l'émission, à l'elfique aussi de Tolkien. Je lui demande s'il a déjà inventé une langue, lui.
Oui, quand j'étais ado, avec une très bonne copine, on avait créé notre propre alphabet. Alors c'était une langue écrite. On écrivait dans notre propre alphabet. Sans l'alphabet initial, personne ne pouvait déchiffrer nos mots, quoi.
Et je comprends que cette langue était aussi une solution pour ne pas être embêté par les autres en classe. Dans ce cas précis, c'est presque une langue refuge qu'ils ont inventée. Mais alors, est-ce qu'ils la parlent encore ?
Non, j'ai perdu de vue cet ami. Du coup, alors j'ai encore les lettres dans cet alphabet. Et j'ai encore l'alphabet initial. Mais je ne l'utilise plus aujourd'hui, quoi.
Et c'est peut-être finalement comme ça qu'on finit par parler de langue morte. Plus loin, voilà deux copains, 23 ans, 1m90, la veste à capuche et les baguilles. L'un d'eux me dit qu'il est ingénieur en intelligence artificielle. Alors ça m'intéresse. Est-ce que l'IA pourrait inventer une langue ?
Oui, complètement. En fait, il faut savoir comment créer une langue. Si tu sais les directions qu'il faut suivre pour créer une langue, tu peux lui donner les bonnes instructions sur comment créer une langue de toutes pièces et il pourra se débrouiller. Non, vraiment, avec un prompt, hein, un petit truc, tu vois, un petit truc simple. Le problème, c'est qu'il n'y a qu'un linguiste, un mec qui est capable de créer une langue qui pourrait bien le prompter. Du coup, bah moi, je peux pas.
Ah, l'abandon.
Voilà, mais non, il faut lui dire, ok, on va commencer par les verbes et tout. Ouais, il faut voilà, un truc comme ça, les sujets, tout ça. Si c'est un truc avec verbe-sujet, hein, voilà.
J'observe ce monsieur qui est assis devant sa boutique, un t-shirt à rayures rouges en mode « Où est Charlie ?» et un sourire de gentil.
Salut.
Quel est votre prénom à vous ?
Jean-Louis.
Jean-Louis, vous avez quel âge ?
Moi, j'ai 58 ans.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?
Je vends des jeux de société et je fais jouer les gens dans un bar à jeux.
Auditeur de France Inter, je lui demande à quoi lui fait penser notre sujet du jour.
Comme ça, d'instinct, je pense à Christian Vander. Christian Vander, à l'époque, avec le groupe Magma, qui a inventé une langue qui s'appelait la Zeule.
Mais c'est une langue inventée de toutes pièces et toutes ces chansons sont dans une langue inventée ?
Oui.
Ça ressemble à quoi, le Zeule ?
Oula, faut vraiment que t'écoutes, hein, parce que là, je peux pas te dire. C'est très, très, très étrange.
Alors, pour être précis, le Zeule est le genre musical inventé par Magma, un groupe lunaire des années 70. Pour ce qui est du nom de cette langue inventée, il s'agit du cobayen. Selon le groupe, cette langue accompagne l'univers mythologique de Magma, donc l'histoire d'hommes et de femmes qui quittent la Terre en crise pour s'installer sur la planète Cobaya, et ça rentre dans le thème de l'émission. Ma dernière rencontre, c'est Olivia, alternante en marketing chez Disney, ou Disney.
Et Disney, peut-être
oui, bien sûr,
aussi.
Qui a un super accent.
Conlanger ? Quelqu'un qui invente une langue de toutes pièces. Ah, j'adore, c'est incroyable comme mot. Ok, je valide totalement, c'est super.
Je lui parle de notre émission des langues inventées dans les fictions.
Ok, oui, un peu comme le Klingon dans Star Trek, par exemple.
Exactement.
Ah, c'est la première référence que j'ai. Attendez, zut, mes doigts.
On essaie de faire le signe Spock, là.
Ah oui, oui, je l'ai à peu près.
Ouais, alors mes doigts se sont cafés. On fait le signe avec les doigts, mais à la radio, ça donne rien. Mais pour les langues inventées, elles pensent à un autre univers.
Ah, alors Donjons et Dragons, c'est tout ce qui est jeu de rôle sur table. Donc, il y a les différentes races des personnages. Donc, il y a les elfes, les Azimars, les barbares. Enfin, tout ça, il y a plein de races et de classes différentes. Et donc, certaines races ont leur propre langue. Et du coup, je sais qu'il y a des personnes qui ont inventé les langues et qui les parlent parfois même dans le jeu ou des choses comme ça.
Avant de la laisser filer, je lui propose un dernier truc. On s'invente une langue, là, vite fait ?
Vite fait, ok.
Comment on se dirait bonjour ?
Bonjour, on se dirait Borin.
Borin.
Borin, ouais. Borin.
Borin.
Arima, l'eau, Amun. Ça voudrait dire j'aime beaucoup la langue.
J'ai l'impression qu'avec l'intonation, on peut dire
ouais,
plein de choses. Donc si je dis Borin.
Borin.
Tepelo Kalame
Olivia qui Alame. Tepelo Kalame Aounoussi. Alors, bien sûr, il faudrait qu'on le retienne, mais ensuite, personne ne nous comprendrait, tout le monde se dirait, mais ils viennent de quel pays ? Et moi, c'est ça que j'aimais bien quand j'étais petite, c'était vraiment, mais personne ne va jamais nous comprendre, et c'était secret. Après, moi, j'essaie d'apprendre la langue des signes, justement parce que ça me permet de communiquer un peu en secret avec mes amis aussi, donc c'est hyper pratique.
Il y a quelque chose de l'ordre du secret. Des cours d'école à Magma, des trottoirs parisiens à Cobaya, inventer une langue, c'est toujours réinventer un lien. Alors oui, l'IA, l'intelligence artificielle, inventera peut-être une langue un jour, mais la première règle reste la même, il faut être au moins deux pour la parler.
Merci Quentin, vous êtes donné beaucoup de mal et en régie Cyril, notre rédac chef, me demande si au moins vous avez pécho.
Enfin, ça va pas, c'était une étudiante, vous rigolez ou quoi? Et puis, mon cœur est pris.
Oui, c'était pas le premier argument.
Vous rigolez ou quoi?
Merci de passer au premier argument, votre cœur est pris et Quentin, vous êtes quasiment marié. Frédéric Landragin, ce qui me fascine dans les témoignages qu'on a entendus dans le micro-trotte de Quentin, c'est qu'on a finalement tous, pendant l'enfance ou l'adolescence, tenté d'inventer notre propre langue ou langage.
Oui, oui. Bah, c'est, comment dire, c'est une façon de s'identifier à un groupe, en fait. Le verlan, ça, c'est ça, hein, au départ. Dans le témoignage qui a été donné, ceci dit, l'alphabet qui subit une transformation, c'est pas une langue, c'est un code.
C'est un code, en fait.
C'est un code. Une langue, c'est beaucoup plus complexe, et c'est pour ça que, comme vous l'aviez dit, on va au-delà des mots, du lexique, et donc au-delà aussi des lettres et de l'alphabet, pour aller vers des règles de grammaire, et donc les conlangueurs, eux, ils inventent des temps verbaux, ils inventent des constructions de phrases, c'est beaucoup plus complexe.
Le problème, c'est qu'on l'a dit, il y a des conlangueurs comme ça, on va dire freelance, qui fonctionnent au projet. Il y a un conlanger pro, super pro aux États-Unis, mais même lui, qui va aller lui dire, dis donc, il y a une petite faute de grammaire là dans cet épisode de machin. Personne va lui dire, il est le seul à créer la langue tout seul, personne va aller
repérer décide, en fait.
Une faute de grammaire. Donc est-ce que ça a vraiment du sens ? Est-ce que c'est pas bidon tout ça ? Je vous le demande.
Alors, ce qui était bidon à une époque, c'était effectivement dans les films de faire reparler des acteurs dans une espèce de charabia, là, comme le bonjour qui devient
Borin.
Borin, voilà. Et du coup, le mot-clé pour tout ça, c'est la cohérence. C'est-à-dire que si vous avez des fans qui regardent le film et qui voient qu'à une scène, il y a un nouveau un bonjour et que c'est un autre mot, eh ben c'est foutu. Alors qu'un conlangueur, lui, il va garantir une cohérence dans sa langue. Donc, c'est pas pipeau.
J'ai regardé l'univers de Magma, donc de Christian Vander, que je ne connaissais pas, qui a inventé cette langue pour s'en servir aussi comme un instrument, qui ne serait pas biaisé par le sens des mots. C'est fascinant, ce groupe des années 70, vous le connaissiez ?
Oui. En fait,
ça rentre dedans ?
Alors, oui, ça rentre dedans, mais il paraît que Vanders a apparemment parlé en cobayen à ses enfants. Donc là, c'est vraiment le début de l'utilisation d'une vraie langue. Mais on va dire que c'est resté quand même embryonnaire, parce que la langue a été créée essentiellement pour les paroles de chansons, donc dans un contexte hyper cadré et surtout très très fini. La langue n'a pas évolué en intégrant de nouveaux mots jour après jour. Donc c'est voué à être une langue morte.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
C'est maintenant le moment où les masques tombent. Qui dans cette équipe est ouvert sur le monde ? Qui s'intéresse à son prochain ? Qui à ce qui se fait ailleurs ? Qui, au contraire, ne s'intéresse qu'à lui et avance dans la vie les yeux rivés sur son nombril ? Et je pense que les Mexicains parlent le mexicanais. Jouons au Zoom Zoom Test spécial dialecte.
Je me sens pas visé.
Dialecte du bout du monde. Un tour du monde qui commence très fort en termes d'exotisme, puisque, comme je sais que vous aimez l'aventure et le danger, je vous emmène en Suisse. D'après vous, combien y a-t-il de langues officielles dans mon pays natal ? 3. Le français, l'italien et le suisse allemand. 2. Le français et l'italien, le suisse allemand, aussi appelé par les romans mâche gravier, n'étant pas considéré comme une langue. 4. Le français, l'italien, le suisse allemand et le romiche.
B.
Mais non, pour vous, il y a 4 langues. Et
B.
Non, suisse allemand et le romiche. Et vous ?
B.
Réponse B. Première question et premier piège, c'était évidemment la réponse D, qui n'a pas été proposée. Okay. La quatrième langue officielle de la Confédération helvétique, c'est le romanche, pas le romiche, bande d'incultes. Oh. Mais attention, top ! Maintenant que vous êtes chaud, partons pour des contrées bien plus hostiles linguistiquement parlant que le canton des Grisons. Direction le Daghestan, région russe du Caucase. C'est là qu'en 1987, la CIA avait envoyé son meilleur agent, Cyril the Courier, pour une mission qui aurait pu porter un coup fatal à l'URSS. Hélas, non seulement Cyril avait menti dans son CV en indiquant russe bilingue, mais il s'était dit qu'il apprendrait l'archi, la langue locale parlée au Daghestan dans l'avion, entre deux mignonnettes de Jack Daniels, qui était optimiste de sa part, car d'après vous, quelle est la petite spécificité, la petite surprise du chef de l'archi ? Une conjugaison présentant 1500 terminaisons possibles ? Une conjugaison présentant 150 000 terminaisons possibles ? Ou une conjugaison présentant 1 500 000 terminaisons possibles ?
C, B, allez.
Vous voyez maintenant ce que ça fait déjà 1 million. Alors, 1 million 500 000 terminaisons possibles.
C'est une bonne réponse de Manon Mariani.
Oui, bienvenue au Daghestan. Si vous faites partie de ceux qui râlaient au collège en soupirant que l'allemand c'est trop compliqué, comme disait Cyril quand il bossait pour la CIA, think again. Découvrez l'archi, une des langues les plus complexes au monde, détentrice donc du record de terminaison possible. À titre d'exemple, en archi, le verbe se termine par cougu pour exprimer le doute, ra quand on pense que ce dont on parle est arrivé, et er quand on est sûr que c'est arrivé. Résultat, il n'y a que 1000 personnes, ra. Il n'y a que 1000 personnes qui savent parler archi. Quant à Cyril, Quant à Cyril qui apprend vite, il avait noté dans son rapport « Mission accomplie, cougu ». Et maintenant, tendez l'oreille, faites confiance à votre trompe de stache et dites-moi, qu'est-ce qu'on entend là ? D'après vous, s'agit-il des explications de Cyril Lacarrière à un policier qui vient de lui retirer son permis car il est à 3,2
grammes ? Ah, voilà, oui.
Du Khoisan du Botswana, dialecte utilisant des voyelles, des consonnes, mais aussi des clics buccaux. Ou du Takatakatak, un dialecte sud-africain dans lequel les virgules sont remplacées par des claques buccaux. C'est notre invité qui prend la main. Bonne réponse, effectivement, de notre invité. Le Khoisan est une langue des Bushman du Botswana, que l'on a découvert pour la plupart dans le film Les dieux sont tombés sur la tête. Mais évidemment, vous, sortis du Roi Lion, vous ne savez rien, vous n'avez rien vu. Alors, vous le voyez, les langues comptant plus d'un million de conjugaisons, aux langues dans lesquelles vous devez faire avec la langue, comme Quentin quand il drague au but de Chaumont.
Pas mal.
En matière de linguistique, vous faites mieux, tout existe ou presque. D'après vous, Manon, Quentin, parmi les propositions suivantes, qu'est-ce qui tout de même n'existe pas parce que ça va trop loin ? Un footballeur professionnel qui parle 8 langues ? Langue qui ne se parle pas mais qui se siffle ? Ou un homme qui parle 48 langues ?
B.
C'est quoi ? Ce qui n'existe pas ?
Qui n'existe pas. Vous me dire ce qui n'existe
B,
pas.
B, alors, c'est...
On peut pas... Non, parce que ça existe, les gens qui parlent avec les oiseaux en sifflant. Alors que 42 langues, non.
C'est 48 c'est déjà. Donc
42, c'est la réponse C. Eh bien, figurez-vous que c'est une bonne réponse de Quentin. Mais non, personne.
Il a changé.
Personne au monde ne parle 48 langues.
Pas.
Personne.
C'est l'invité qui m'a aidé.
Ah,
personne ne parle 48 langues. 47, oui, mais pas 48. Je vous présente Yonis Economou, traducteur auprès de la Commission européenne qui parle donc 47 langues différentes, 32 langues vivantes et 15 langues mortes. Quant au footballeur pro qui parle 8 langues, il existe. Il s'agit de Romeo Lukaku, immense attaquant belge d'origine congolaise. Il parle français, allemand, anglais, espagnol, portugais, néerlandais et flamand. Ouais. Enfin, puisqu'elle existe, comment s'appelle la langue qui se siffle? Le sifflamou, le couche d'Ili ou le Micheline Dax?
B.
Bah, A.
Le sifflamou.
Micheline Dax, pardon.
C'est parlé.
Par contre, c'est un siffleur hors pair qu'on a dans les oreilles.
La Micheline Dax siffle.
Je crois que c'est Micheline Dax. C'était une illustration. La bonne
j'ai
réponse
B,
était
moi.
La réponse B, le couche d'Ili. Bienvenue en Turquie. Là, c'est plus Micheline Dax, c'est le couche d'Ili. Ce que vous entendez là, ce ne sont pas des oiseaux, mais effectivement des gens.
Ah
dans
bon
une vallée,
c'est
reculée et
escarpée,
longtemps privée de transport, ont développé il y a 500 ans une technique pour communiquer en sifflant, en imitant le langage des oiseaux. Et
c'est
pour finir...
Moi, je ne sais pas siffler. Voilà.
C'est vrai non. Ah bah, essayez,
pas du tout, essayez quand même.
Ah oui, ça marche pas.
Essayez de siffler la musique qu'on entend.
Non mais arrêtez, je ne sais pas siffler. Allez.
Pour finir, vous l'entendez?
Oui, bon, bah bravo,
une
quand
sorte,
même. Toujours une
sorte,
grandeur, là.
Une sorte de Cap Vert en moins chiant, dirait Courade. Nous partons pour le Brésil, et plus précisément sur les rivages du fleuve Maïsi, où est parlée une merveilleuse langue, le piranha. Merveilleuse et surprenante, car aucun mot ne désigne une couleur, puisque la couleur n'existe pas, piranha.
C'est le piranha, en revanche. Hein.
Le piranha, oui, bien sûr.
C'est bien
parce que piranha, c'est... Ne pas confondre, c'est les petits poissons. Qui font
mal.
C'est les petits poissons qui font bobo.
Je me suis dit bon.
Dans cette langue, piranha, un seul mot permet de désigner tous les nombres. Seule la façon de le prononcer varie en fonction des quantités. Ou un seul mot est utilisé en piranha pour désigner un membre de sa famille, quel que soit le degré de parenté.
C'est... Allez,
on est dans
le bon. Je vous propose de réfléchir très fort.
Moi, je dis, allez, les trois.
Elle remporte la mise sur le fil, les trois. Je vous laisse donc imaginer le bordel s'il faut dire en piraya, mes quatre oncles sont rouges. Mais c'est vrai que c'est une phrase qu'on ne prononce pas tous les jours. Victoire.
Bah, si, s'ils sont
mauvais. Bonne soirée. Ça vous
merci
arrive
à tous,
Peter
de Manon. Ah, c'est bien.
Il est loin, les amis. Il est loin
c'est
le temps
siffler.
Où, pour surprendre les spectateurs, les scénaristes pouvaient se contenter de faire dire à un extraterrestre. Le directeur de recherche en linguistique au CNRS, Frédéric Landragin, est toujours avec nous pour décrypter ce métier passionnant de conlanger, inventeur de langues. Alors, Frédéric, on parlait des langages extraterrestres qu'on peut retrouver dans la fiction. J'ai découvert le mot astrolinguistique.
Oui.
C'est quoi ça?
C'est une sorte de discipline qui est un petit peu en essor depuis les années 1960, où il y a eu un précurseur qui a essayé de mettre au point un langage, on ne peut pas vraiment parler de langue, parce que c'est un langage à vocation universelle.
Que les extraterrestres pourraient comprendre.
Alors, voilà, qui pourrait être utilisé quand on envoie des messages à des extraterrestres au lieu de les envoyer en anglais américain.
Oui, ce qui n'a pas beaucoup de sens.
Sûr
oui,
que ça ne va pas marcher.
Manon.
On a entendu parler de l'intelligence artificielle dans le micro-trottoir de Quentin. Elles sont de plus en plus puissantes aujourd'hui, on le sait. Est-ce qu'on pourrait imaginer des intelligences artificielles qui inventent leur propre langage et pour parler entre elles, par exemple?
Ah, ça, c'est un thème de la science-fiction qui est assez bien... comment je peux répondre à ça? Déjà, je ne pense pas qu'une intelligence artificielle puisse créer une langue sans aucune instruction. Mmh. Comme
on l'a dit tout à l'heure,
il faut un prompt et...
une consigne.
Un certain nombre.
De
et la personne qui était interviewée disait il vaut mieux être linguiste pour arriver à faire les bons prompts.
Bon, oui.
Il se trouve qu'il y a eu la première thèse en France sur ce thème-là qui a été soutenue là en 2025. Et la thésarde avait fait des tests avec ChatGPT et autres et avait vu que c'était même pas la peine, ça ne marchait pas du tout.
Ils n'y arrivent pas?
Non. On ne peut pas faire ça en une seule fois. Donc, par contre, ce que l'on peut faire, c'est diviser le problème et se dire, créer une langue, c'est quoi? On en a parlé, c'est créer des sons. Donc ça s'appelle la phonétique. C'est créer des mots. Donc ça s'appelle le lexique. Créer une syntaxe, c'est-à-dire le fait que dans une phrase, il va y avoir des verbes, des noms communs, mais éventuellement, peut y avoir une langue sans verbes. Et à ce moment-là, on met autre chose. On met des adjectifs, des conjonctions, des je ne sais pas quoi, et on assemble un petit peu tout ça. Donc ça, c'est de la syntaxe. Il y a l'ordre des mots aussi qui compte. Et puis, il y a toutes les règles de conjugaison, avec les 1 500 000 conjugaisons, désinences, ça, c'est de la morphologie. Eh bien, tous ces domaines-là, ce sont les sous-domaines de la linguistique. Phonétique, lexique, syntaxe, morphologie, prosodie aussi, quand on parle de l'intonation. Et donc, on peut demander à l'IA d'aider un linguiste à faire une morphologie artificielle, construite. Mais on ne peut pas faire une langue comme ça, en une seule
aujourd'hui, on a meilleur temps de la concevoir par nous-mêmes,
pas
cette
encore,
langue, que de demander,
ça, on peut pas savoir,
que de demander à une IA. On a meilleur temps de le faire nous-mêmes. Enfin, les conlangueurs professionnels...
Oui, mais par contre, les conlangueurs peuvent s'aider. Alors, ce n'est pas encore des IA, c'est plutôt des petits logiciels qui sont des générateurs automatiques de noms propres, d'alphabets, etc., pour faire leur travail.
Quentin. Et notre bon vieux français, comment il va au milieu des langues bien réelles et inventées? Comment il va comment se porte cette langue?
Le français va très bien, merci.
Voilà. Merci Quentin,
c'est le titre
pas.
D'un livre qui est paru il y a quelques années. Le français évolue, comme toutes les langues vivantes, donc pas comme le latin ou le grec ancien, mais comme toutes les langues qui sont parlées sur notre terre. Et donc, petit à petit, il intègre de nouveaux mots. Prompt ou prompteur, par exemple, c'est des mots qui... Enfin, prompt, il existe, c'était un adjectif. Là, maintenant, c'est aussi un nom commun. Ou grave, j'ai kiffé grave. Bon, voilà, ce sont des mots...
Iconiques.
Non, maintenant, on avait réussi à faire l'émission sans prononcer ce mot-là, et vous salissez tout.
Qui s'intègre peu à peu à notre vocabulaire, et ça n'a aucun problème.
Dernier petit point, je voulais vous poser cette question, parce que dans votre article dont on a parlé, publié sur le site du CNRS, vous notez l'importance de la langue dans la science-fiction féministe. En quoi ?
Ah oui, alors, il y a quelques œuvres, mais alors, c'est peut-être un peu passé de mode. C'était des... Par exemple, Ursula Le Guin, qui avait écrit des romans dans les années, si je ne me trompe pas, 1970 ou 80, où, effectivement, le féminin avait beaucoup plus d'importance que, par exemple, en français. Et d'autres auteurs, elle n'était pas toute seule, ont imaginé des planètes où ce n'était pas un patriarcat, mais un matri. Enfin, où c'était
lié, tout ça, à la langue.
Voilà. Et le féminin qui l'emportait sur le masculin, non seulement dans la langue, mais aussi dans le mode de vie.
On aura retenu ce que vous venez de nous dire, le féminisme est passé de mode. Vous écoutez France Inter.
Ce n'est pas une mode.
Il est 16h46. Prom-Dog.
Prom-Dog toujours.
sur ce sujet-là, oui.
Madame Prom-Dog prend donc le micro. Manon Mariani, dans votre pièce jointe aujourd'hui.
Un groupe. Ce que vous entendez, c'est la chanson Poplagio du groupe islandais Sigur Rós. Et si vous n'arrivez pas à distinguer la langue avec laquelle le chanteur John Z interprète le morceau,
c'est
normal.
Non,
elle n'existe pas, c'est le sujet de l'émission.
Oui, c'est vrai.
C'est une langue inventée par lui-même qui s'appelle le Volenska. Elle a pour particularité de ne pas avoir de syntaxe ou de grammaire. Elle ne peut pas être parlée, car c'est une langue juste créée pour être chantée. John Z émet des sons assez proches de la sonorité de la musique, et ça donne l'impression qu'il interprète vraiment les paroles d'un texte. Certains médias spécialisés comparent leur langue à une version moderne du scat qu'on trouve dans le jazz.
Alors, est-ce que vous savez ce qu'on écoute là ?
Ella Fitzgerald ?
Mais où ?
Oui, alors non,
dites-le nous. Et ça, elle chante How High the Moon, et c'est le dernier titre du truc, c'est incroyable. C'est vraiment un truc qu'il faut écouter une fois dans sa vie.
Le conseil de Mathieu Noël. Alors effectivement, ce n'est pas le même style, mais c'est la même démarche. Dans le cas de Sigur Rós, ce Wolenska renforce le côté onirique de leur chanson, comme si la voix de John Z était un instrument supplémentaire de leur groupe. Leur album, parenthèse ouverte, parenthèse fermée, sorti en 2002, est même intégralement chanté dans ce langage. Non mais c'est important le titre, parce que du coup, il est chanté dans ce langage imaginaire et il est livré avec un livret vide, justement comme une page blanche offerte à tous leurs fans pour qu'ils écrivent eux-mêmes leurs propres paroles. Depuis leur premier album en 1997, Sigur Rós a imposé justement son univers mystique, planant, un peu bizarre mais totalement envoûtant au public du monde entier. Ils en sont aujourd'hui à 8 albums. Thom Yorke, le chanteur de Radiohead, les a plusieurs fois plébiscités en disant qu'il était fan de leur musique. C'est vrai qu'on peut trouver un air de ressemblance, sauf que Yorke, lui, il chante en anglais. Toutefois, le groupe se fait tout de même assez discret sur cette histoire de langue. Dans une interview de 2007, le chanteur John Z dit même que c'est du bullshit et une invention des journalistes. Toutefois, sur leur site officiel, il est tout de même bien précisé que oui, ils ont leur propre langage, mais que pour eux, il s'agit plus de vocalisation que d'une langue à proprement parler.
Mathieu Noël sur France Inter.
C'est avec indulgence que je vous demande à présent d'accueillir Pierre Courade, encore sous le choc ce week-end des adieux d'Olivier Mine à Fort Boyard. La réalité dépassant souvent la fiction, surtout concernant Courade. Je n'inventerai rien aujourd'hui et me contenterai de vous lire tel quel le texte publié par notre rédacteur en chef adjoint ce week-end sur Instagram. Je cite « Olivier Mine est un animateur au sens noble du terme. Il est élégant, professionnel, d'une maîtrise de la langue et du direct unique. Je l'ai aimé dans Les Mondes Fantastiques, Mission Pitarac, dans La Cible,
Pierre Attaque.
Et évidemment, on s'en fout, et évidemment, dans Fort Boyard. On le suivra toujours. Pierre,
c'est une story publiée à 2h
du matin.
On imagine dans quel état.
J'étais très triste, c'est la fin de Fort Boyard.
Hein. Oui, à 2h du matin, vous pensiez à ça.
Non, et j'imagine que notre invité s'est inspiré de Déboulon, qui était l'extraterrestre des Mondes Fantastiques, pour écrire son livre sur comment parler à un alien, non ?
Ah non, ça lui
dit. Pierre, allez, merci. Essayez quand même de nous résumer tout ce qu'on s'est dit en une minute chrono.
Et ben aujourd'hui, on a parlé d'un métier assez passionnant, conlanger. En français, on dit idéolinguiste, c'est toujours bon de le préciser. Il s'agit d'un linguiste qui invente une nouvelle langue pour l'intégrer dans un univers fictif. C'est par exemple le Navi dans Avatar, le Dothraki dans Game of Thrones, le Fourche-langue dans Harry Potter. Des langues fictives, mais totalement construites, avec du vocabulaire évidemment, mais aussi une grammaire, des déclinaisons, des accents, une prononciation, des sonorités. La langue, c'est aussi important que les costumes dans une fiction, nous a dit notre invité, le linguiste au CNRS Frédéric Landragin. Mais le maître des conlangers reste quand même Tolkien, hein, le créateur du Seigneur des Anneaux. Lui, il a même inventé l'univers des Hobbits pour faire vivre les langues qu'il venait de créer, celles des elfes et des nains notamment. Il est même allé plus loin, il a imaginé une évolution de la langue, ça s'appelle la diachronique, tout ça pour rendre le récit crédible et embarquer le lecteur dans un univers global. On a appris que ça s'appelait le sense of wonder, le sens de l'émerveillement. C'est magnifique et on a hâte que Cyril s'empare de cette notion.
C'est presque aussi beau que la dernière d'Olivier Mine dans Fort Boyard. Merci Pierre Courade. Enfin, pour conclure cette première partie, on lui tire plus souvent son chapeau que sa langue, tant ses textes sont brillants. La preuve, il a inventé des tonnes de jeux de mots outranciers, il est papa, il a un spectacle, un podcast, il est remplaçant permanent dans cette émission et il a même trouvé le temps d'inventer une langue dans la famille Pop. Je demande le fils, voici Guigui Pop.
Allez Zagigi, Bagmougi, Ginzetungi, Dumigi, Gagegi, Yangsgegi, Gi, Gigi, Gagvagzegmi,
Gigi.
Ok, bonjour Frédéric, Zagbak. Allez, vous venez de l'entendre, j'ai moi-même créé ma propre langue que visiblement tout le monde comprend autour de la table comme par enchantement. Une langue très ancienne que j'ai commencé à élaborer en quatrième lorsqu'à l'intercours j'ai demandé à Juliette Monnier si elle voulait sortir avec moi. Elle a alors répondu non et j'ai rétorqué en transpirant à grosses gouttes comme un âne professeur de crossfit, une langue encore jamais utilisée jusqu'alors que j'ai intitulée le portugais. Alors, outre le fait que je sois un conlanger aguerri, Frédéric, je suis aussi le poil à gratter de l'émission. Je suis le petit cheveu coincé dans le col quand on sort de chez Jean-Louis David et qu'on nous a mal époussetés. Oh Guigui la gratouille, j'indispose, je contrarie, je dérange. Tellement que suite à ma dernière chronique au vitriol sur Le Corbusier qui a fait couler beaucoup d'encre, notamment parce qu'elle faisait 4 pages, le FBI m'a mis sur écoute toute la semaine et j'ai pu me procurer la bande puisqu'ils sont venus récupérer les micros hier soir en me disant qu'ils s'étaient trompés d'étage et ils étaient installés dans le mauvais domicile et que je n'étais accessoirement absolument personne. Bon, j'aurais aimé l'apprendre dans d'autres circonstances, Frédéric. Toujours est-il que voici un extrait de l'enregistrement pris totalement à mon insu lorsque je m'occupais de mon fils.
Qu'est-ce que tu penses de Cyril Lacarrière ? Non, mais pas physiquement, je veux dire... Bon...
Je pense que l'extrait parle de lui-même, et oui, mon fils est totalement HPI, au potentiel incompréhensible. Mais pardon, vous faisiez quoi, hein ? Non, vous passiez sur France Inter ? Je pense pas. Mon fils est un conlanger de talent, n'en déplaise aux mauvaises langues qui vont dire « Mais il ne s'agit pas d'une langue, ce sont simplement des babillages d'enfants. À la manière de Philippe Croizon, cette histoire ne tient pas debout. » Eh bien, détrompez-vous. Chez les Pop, nous sommes conlanger de père en fils.
Heureusement, heureusement qu'il y a de l'humour.
J'en veux pour preuve mon père lui-même bilingue qui a fait LV1 français et LV2. Voilà. Pour les plus vieux d'entre vous qui regardiez ce cartoon, j'ai tout bonnement été élevé par Taz. Voilà, langue ancestrale fait uniquement d'onomatopées, c'est ainsi que s'exprime mon paternel. Et après des dizaines d'années de pratique, j'ai tout de même réussi à en tirer des traductions. Par exemple, pour dire « Est-ce que tu peux faire un peu moins de bruit, s'il te plaît, mon trésor ? Papa est fatigué. » Dans la langue ancestrale de mon père, on dit « Ah !» Voilà. Un O qui varie selon l'intonation, ce qui fait que quand j'étais petit, si je n'avais pas mon père en visu, je ne pouvais pas savoir s'il me grondait ou s'il était à cheval. Oh ! Merci, c'est une chronique interactive. L'avantage, c'est que c'est une langue plutôt facile à écrire, vous vous en doutez, la seule variation étant la place du O avant ou après le H. Mais dans une langue inventée, comme dans une langue connue, la place des lettres a son importance, Frédéric. Vous n'êtes pas sans savoir que si on enlève le R à Pedro Pascal, ça fait Pedro Pascal. Et oui, et c'est plus la même aura d'un coup. On entendrait moins parler, ça nous ferait des vacances. Il est moins évident à monter, le fun club de Pedro Pascal. Et puis jouerait dans quoi? Les quatre en fantastique. Allez, je suis un véritable monstre du carambour, Frédéric. Bref, j'ai bien essayé de perpétuer la langue de mon ancêtre avec mon fils et balancer des « Oh, à tout va !» Mais hélas, pour le moment, j'ai autant d'autorité sur lui qu'un écriteau. Pas de publicité, s'il vous plaît, sur une boîte aux lettres. À savoir, tout le monde s'en branle. Allez, c'est la fin de cette chronique. Je vous laisse, l'équipe. Prenez soin de vous. N'oubliez pas, chacun sa langue, chacun son latin. Ou comme dirait mon fils, pour clôturer l'intégralité de ces échanges...
Merci Guigui Pop, le monstre du calembour, c'est votre nouveau surnom. On vous retrouve sans doute bientôt dans Zoom Zoom Zen et Justiel, que vous reprenez votre spectacle à partir du 19 septembre au Petit Palais des Glaces à Paris. La province, elle, attendra, elle n'est pas encore prête. Merci Frédéric Landragin de nous avoir fait découvrir ce métier de conlanger, l'art d'inventer une langue de A à Z. Je rappelle le titre de votre livre qui nous a aidé aujourd'hui, Comment parler à un alien, c'est dispo aux éditions Le Bélial, et à noter aussi votre dernier ouvrage, Aimer un robot avec Blade Runner aux éditions Dunod. Merci d'avoir été avec nous cet après-midi. Zoom Zoom Zen.